Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Belinda Busuma. À la une, cet ultimatum, les maisons construites dans l'emprise de la RVA Lubumbashi seront bientôt détruites. Déclaration du gouverneur du Haut-Katanga, c'est dans l'optique de construire un nouvel aéroport de type moderne, explique Jacques Kiaboula. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, vole au secours d'environ 5000 élèves orphelins des écoles du district de la Lukunga à Kinshasa. Il leur a remis hier des fournitures scolaires. Ce geste réjouit les bénéficiaires et leurs encadreurs. Vous entendrez l'un d'eux. Et puis, l'université officielle de Mbujimayi se dote de plus en plus des équipements pour concilier la théorie à la pratique, mais elle est confrontée à plusieurs défis. Pour en parler, nous recevons le recteur de cette université, l'abbé Chibaka Chikongo. À tous et à toutes, bonjour. Dans la province du Haut-Katanga, les maisons qui sont construites dans l'emprise de la régie des voies aériennes RVA à Lubumbashi seront bientôt détruites. Déclaration du gouverneur de province après sa descente sur le terrain. Il était accompagné du ministre de l'Urbanisme et Habitat du gouvernement central qui séjourne à Lubumbashi, des responsables de la RVA, ceux du cadastre et de l'urbanisme, ainsi que du procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga. Des précisions avec Jean Gandou.
Les maisons concernées sont celles situées sur un espace d'environ 20 hectares. Sur ce site, il n'y a non seulement pas des maisons déjà habitées, mais aussi d'autres qui sont en pleine construction. Pour le gouverneur de la province du Haut-Katanga, la RVA doit rentrer dans ses droits et tout l'espace spolié devra être restitué. Le tout s'est fait aussi dans l'optique de la construction d'un nouvel aéroport de type moderne. Pour Jacques Kiaboula,
on ne peut pas spolier un bien de l'État. D'ici peu, il y aura des inspecteurs qui vont venir et donc il faut qu'on trouve un aéroport déjà clôturé et toutes les exigences soient réunies. Pas la spoliation. Donc nous n'acceptons pas. Ceux-là qui ont eu des terrains ici doivent déjà se mettre en tête qu'ils vont le perdre.
Au ministre Crispin Badou Panzou de l'Urbanisme et Habitat de renchérir.
Après cette descente, nous allons faire le point pour que les responsables soit immédiatement inquiété. Parce que ce qui se passe ici, c'est du banditisme administratif. Alors les responsabilités des uns et des autres doivent être détruites.
Notons qu'il y a quelques années que plusieurs maisons érigées sur ce même site étaient détruites pour les mêmes raisons, mais elles ont finalement été reconstruites. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a remis hier des fournitures scolaires à près de 5000 élèves orphelins des écoles du district de la Lukunga à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée au quartier Kanluka, dans la commune de Ngalema. Ce geste de Samuel Mbemba a réjoui non seulement les bénéficiaires, mais aussi leurs encadreurs, dont une femme responsable d'un orphelinat de la place. Elle s'exprime au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Monsieur le ministre Samuel Mbemba, nous vous disons merci. La Bible même dit prier sans cesse, mais moi je vous dis merci sans cesse pour ces gestes louables. Depuis 23 ans que nous sommes dans ce travail d'encadrement, d'aide et de protection des enfants orphelins, c'est pour la première fois que nous voyons un membre du gouvernement apporter les sacs, les cartables, des cahiers et tout autre objet classique pour ces enfants orphelins. Ce n'est pas pour vous flatter, mais nous vous disons la vérité. C'est pour la première fois que ces enfants puissent avoir le sourire, malgré qu'ils n'aient pas de parents. Je vous dis encore merci. Que tout ce que vous entreprenez puisse aller de l'avant et que vous puissiez monter encore plus haut dans ce que vous faites.
Ces kits scolaires sont constitués notamment des cahiers, des stylos, des crayons, des cartables et une somme d'argent pour chaque bénéficiaire. Et puis, renforcer la coopération entre la capitale congolaise et la Banque mondiale dans la lutte contre les désastres causés par le changement climatique et l'insalubrité, c'est l'un des points abordés mardi à Kinshasa lors de la rencontre entre le gouverneur de la ville-province et la délégation de la Banque mondiale. Albert Zefak parle ici des trois points abordés avec Daniel Bumba, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, est au micro d'Étienne Lissoumbou.
l'opérationnalisation du plan de lutte contre les désastres liés au climat, n'est-ce pas ? Comment faire face aux dommages créés par les inondations, les érosions, les glissements de terrain, tous liés au changement climatique et qui affectent terriblement les citoyens de la ville. Deuxièmement, nous avons parlé du projet Kin Elenda, dont la mise en œuvre a déjà contribué à donner de l'eau potable à plus de 2 millions de Quinois et dont la mise en œuvre continuera dans les années qui viennent pour aussi s'assurer effectivement qu'on assure un traitement des déchets de façon écologique dans la ville de Kinshasa. Et c'est effectivement le troisième point que nous avons discuté avec le gouverneur. Comment travailler ensemble pour faire de Kinshasa une ville propre? Comment évacuer les déchets? Comment s'assurer qu'on puisse les transformer en opportunités d'énergie et d'emploi?
Santé. Les partenaires techniques et financiers estiment nécessaire de booster les activités de riposte à l'épidémie Mpox dans l'Équateur, car à ce jour, la province compte 6422 cas, dont 344 décès. Elle est cependant confrontée à plusieurs défis, tant au centre de traitement des Mpox qu'au sein de la communauté. Parmi ces défis, l'insuffisance des médicaments, le manque d'eau potable, la non prise en charge alimentaire des malades admis au centre, mais aussi le manque des moyens de sensibilisation de la population et de primes aux équipes de riposte. À la tête d'une mission conjointe d'évaluation de la situation, hier à Mbandaka, le directeur associé de préparation et réponse aux urgences sanitaires à l'UNICEF New York apprécie le travail déjà abattu et rassure de l'appui des partenaires pour bientôt. Docteur Douglas Noble est au micro de Paul Richard Malengela.
Yeah, thank you. Yeah, I'm with UNICEF. I'm the Global Incident Manager for Mpox and I'm here with Africa CDC.
Nous sommes ici avec l'équipe de l'OMS ainsi que CDC. C'est parce qu'ici, il y a eu plus de cas de Mpox et nous sommes là pour évaluer la situation dans la province. D'abord, je suis vraiment très impressionné de voir tout le travail qui est fait ici. L'engagement communautaire, j'ai rencontré des jeunes qui travaillent dans la communauté. Vraiment, ils font un travail incroyable. Mais en ce qui concerne les défis, il y a les problèmes de l'eau qui posera beaucoup de sévérité de maladies dans la province et la malnutrition aussi. Nous avons une équipe qui opère ici dans la province. En tout cas, ils font aussi très bon travail. J'ai aussi visité les enfants qui sont dans la crèche. En tout cas, on est en train de travailler pour mitiguer donc cette situation. Il y a aussi des défis logistiques, mais nous avons apporté des médicaments et des produits qui pourront aider les personnes malades. Il y a parmi ça des vaccins qui sont déjà en cours, mais il y a une accessibilité de certains lieux. Ça, c'est notre défi pour apporter ces médicaments. Mais déjà, tout se passe bien.
Need more help.
Sud Kivu, plusieurs personnes sont irrégulièrement détenues dans les cachots et prisons par manque des moyens ou à cause de la lenteur du traitement des dossiers. Constat fait par la commission mixte évaluation de l'activité composée des magistrats civils et militaires. Cela après avoir cartographié les lieux de détention et identifié les détenus avec besoin d'assistance judiciaire gratuite. Pour ce faire, 122 détenus en situation irrégulière ont été libérés de la prison centrale de Bukavu, 45 autres libérés d'autres lieux de détention de la ville. 44 des cachots découverts et monitorés, 22 dossiers d'enfants en conflit avec la loi envoyés devant le juge et plus de 200 condamnés éligibles à la libération conditionnelle. Voilà les résultats du projet Accès à la justice présenté mardi à Bukavu. Rachel Kiesse nous en parle.
L'opération de cartographie des lieux de détention et d'identification de détenus ayant besoin d'assistance gratuite a démarré à Bukavu le 19 août dernier. Le ministre provincial de la Justice et Droits Humains, Faustin Mayani Shindano, revient sur ses résultats et les défis.
Il y a des personnes qui ont été trouvées en situation de détention pour des faits bénins, d'autres qui se trouvaient en situation de détention simplement parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de nos institutions. Voilà pourquoi il y en a qui ont été libérés. 120 personnes de la prison centrale, mais les défis pour ce qui concerne les cachots, dans la plupart des cas, il y a insuffisance des OPJ. Mais aussi les quelques policiers qui étaient trouvés dans des lieux de détention et dans des cachots, ces policiers étaient en situation d'ivresse. Ce qui montre la suffisance, c'est que les choses ne marchent pas bien. Et nous, comme ministre sectoriel, nous avons le devoir de redresser la situation et d'améliorer les conditions de détention en province.
C'est ainsi que, dès ce mercredi, un atelier de renforcement de capacités de secrétaires de parquet civil et militaire et du personnel pénitentiaire est organisé à Bukavu. Rappelons que cette activité est organisée par le ministère provincial de la justice du Sud-Kivu, appuyé par le projet Accès à la justice, un projet mis en œuvre par le consortium de ONG internationales Alert, IPIS et Pool Institute, Bukavu. Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Kasaï Central, le programme national de développement agricole a démarré la campagne de vente des semences aux petits exploitants. Ces derniers sont ceux qui ont été enregistrés pour la saison agricole A 2024. C'est dans le cadre du soutien de la productivité agricole. Ce programme appuyé par la Banque mondiale vise à permettre aux petits exploitants d'augmenter leurs actifs et leur production. François Kadima.
Le PNDA est une initiative du gouvernement congolais pour l'amélioration de la productivité et l'accès au marché des petits producteurs agricoles. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 300 millions de dollars américains pour 5 ans. Au Kasaï Central, le projet appuie la campagne agricole A en soutien aux petits exploitants agricoles. D'après la coordonnatrice de PNDA Kasaï Central, l'opération vise à appuyer l'achat des semences par les petits exploitants aux agri-multiplicateurs. Véro Baka.
Nous avons aujourd'hui 9745 petits exploitants. Nous allons remettre des incitations pour qu'ils puissent acheter de la semence afin d'emplaver chacun 0,5 hectare.
Nous avons également rencontré Timothée Kalunga, un agri-multiplicateur qui explique le processus de livraison de semences.
Nous allons avec la semence chez les petits exploitants. Ils ont les coupons qui les reçoivent de PNDA. Aussitôt terminé la vente, il doit me donner les coupons. Ces coupons-là ont une valeur monétaire. Moi, je vais avec, je présente maintenant à PNDA.
Selon le PNDA, le processus vise à permettre aux petits exploitants d'avoir des ressources pour continuer à se procurer eux-mêmes les semences. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Au Maniema, plusieurs quartiers nouvellement lotis souffrent d'un manque cruel d'eau potable et puisque l'eau fournie par la régie des eaux manque, la plupart des ménages se voient obligés de recourir à l'eau des puits. La carence d'eau touche presque tous les habitants de Kindu. Pour tenter de remédier à cette situation, le chef de l'entité islamique de la Komiko Maniema vient de lancer les travaux de forage des puits d'eau. Florence Kiza nous en parle.
En cette période, les femmes, les jeunes gens et même le chef de ménage passent un bon moment de la journée dans les bornes fontaines à la recherche de l'eau. Certains, d'après des témoignages, y passent même la nuit dans l'espoir d'avoir de l'eau à temps. Préoccupés par cette pénurie d'eau, les chefs de l'entité islamique décident de voler au secours des populations. Bienvenue à Miss Idrissa et le secrétaire particulier de l'UMAM.
Souciant de répondre aux besoins de la population de Kindu en particulier et celle de la province du Maniema en général. Nous sommes aujourd'hui dans les blocs Braza, commune Kasuku, non loin du marché Omata, pour le lancement officiel des travaux de forage des puits d'eau potable afin de résoudre les difficultés qui traversent la population de cet environnement comme inscrit dans les programmes. Je vous précise que l'imam chef d'entité islamique de la Komiko Maniema, Cheikh Id Saleh Mansoura, en sa qualité de manager, ne cessera jamais de participer à toutes les difficultés qui traversent notre chère population du Maniema. Nous invitons donc la population de nous accompagner par leur forte prière pour la réussite de nos programmes.
D'après l'imam, ces travaux sont financés en grande partie par ses partenaires. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, pour faire face à la pénurie d'eau dans une ville en pleine expansion, de nombreux ménages de Bounia ont opté pour le forage des puits dans leurs parcelles. Si certains s'en servent pour leurs besoins domestiques, d'autres en font une activité commerciale. Mais quel est l'impact de cette pratique sur l'économie des ménages? Jean-Claude Lowe, qui a parcouru certains quartiers pour en savoir plus, voici son reportage.
Dans presque tout le quartier de Bounia, on trouve des puits d'eau de forage. À Bigo 3, dans la commune de Chiari, Olivier Baraka vend de l'eau issue de son puits à ses clients. Selon lui, cette activité est rentable et constitue une source de revenus essentielle pour sa famille.
Bon, jusque là, je peux dire que je le trouve parce que si on a la provision déjà à la maison, on prend ce qu'on a journalièrement. On peut dire qu'on peut s'acheter des articles au marché et manger journalièrement.
Ça aide quand même.
Ça aide quand même.
Cependant, d'autres habitants ont abandonné cette activité, évoquant les tracasseries imposées par les services de l'État. Benoît Kafouaboussa, un autre résident de Bounia, explique que son objectif initial était de venir en aide aux personnes défavorisées qui n'avaient pas accès à l'eau potable.
Normalement, les services de l'État doivent voir toutes ces eaux-là sont potables. Ça nous a découragés quand vous voyez les services venir avec la vision des pays. Ils devraient venir maintenant nous appuyer.
Il est à noter que le prix d'un bidon de 20 litres d'eau varie entre 50 et 200 francs congolais. Malgré cela, de nombreux habitants estiment que l'État devrait fournir gratuitement de l'eau à la population. Bounia, Jean-Claude Lucky, Guilé, Radio Capi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Le bilan de l'épidémie de choléra est en hausse. Dans un communiqué, le ministère de la Santé parle de 266 nouveaux cas enregistrés, ce qui porte le total à 9533 depuis août dernier, dont 315 décès. L'épidémie de choléra a été déclarée au Soudan le 12 août dernier. Dans le même rapport, le ministère indique que le nombre des décès dus aux inondations et aux pluies dans l'ensemble du Soudan s'élève à 225 et 889 personnes blessées.
L'invité.
L'université officielle de Mbujimayi se dote de plus en plus des équipements pour permettre aux étudiants de concilier la théorie à la pratique. Cependant, elle est confrontée à plusieurs défis liés à la violence physique, morale et à la corruption. Le professeur Abbé Tshibakati Kongo, recteur de cette université, en parle avec Esther Ndalafina.
Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, vous venez de présenter à la presse autant d'équipements pour quelques facultés de l'UOM. Comment avez-vous obtenu cette dotation?
Il faut d'abord dire que à l'université, la formation est complexe, elle exige donc des infrastructures appropriées. Et là, on est en train de fournir un effort pour doter toutes les facultés des laboratoires qui conviennent. Alors, on a obtenu cela grâce à la conjugaison d'une collaboration entre des partenaires occidentaux, certains partenaires locaux, mais aussi les moyens propres. Chaque étudiant par an paye $30 comme contribution à l'équipement, à la construction. Il paye aussi des frais de laboratoire, donc nous avons fait des économies sur ces frais-là.
Vous avez parlé des voyages de quelques enseignants de l'université vers l'étranger. Qui les prend en charge?
Là, c'est encore des partenaires étrangers, mais l'université apporte aussi sa contribution. En fait, au total, ça fait 25 bourses. Il y a 3 bourses en Espagne et les 3 boursiers voyagent déjà ces 18. Ils vont en Espagne, c'est un programme dans lequel ils sont inscrits sur 3 ans en vue de la défense de leur thèse de doctorat. Ils vont donc effectuer des séjours de recherche, ils vont donc aussi apprendre l'espagnol et travailler avec ce co-directeur-là qui les accompagnera pendant 3 ans. Et il y en a 2 qui vont en Allemagne, ils viennent de terminer 3 mois de formation d'initiation à l'allemand à Kinshasa. Ils ont réussi au test, ils sont pris en charge par une fondation catholique d'Allemagne. Fondation Hans Seidel. Ils vont donc travailler dans des centres de recherche, donc ils vont en formation, qui ont donc des directeurs et des universités qui vont les accueillir. C'est que les personnes qui vont sont inscrites aux études doctorales au Congo, c'est donc des étudiants congolais qui font des études au Congo, mais qui effectuent des séjours de recherche en Europe où ils sont accompagnés par des co-directeurs de leur thèse. Comme ça, on peut au bout de 3 ans avoir au moins 25 nouveaux professeurs dans ces différents domaines. Des partenaires européens financent leur séjour, leur travail sur place. L'université apporte une contribution, notamment dans l'un ou l'autre cas, pour ce qui est du voyage ou de l'assurance.
Les étudiants de l'UOM sont éparpillés dans beaucoup de coins de la ville pour suivre les enseignements. L'université officielle de Mbujimayi est en pleine construction. À quand la fin des travaux?
Les travaux sont très avancés. Les auditoires et les homes, donc de la première phase, seront probablement achevés avant le mois de décembre. Maintenant, la présidence de la République a lancé de nouveaux travaux qui vont nous permettre d'avoir un grand amphithéâtre de 400 places et 2 auditoires de 200 places chacun. D'après les informations dont nous disposons, de cette deuxième phase, ces travaux-là pourront aller jusqu'au mois de juin. Si les calendriers sont respectés, la première partie, au moins les grands auditoires, pourront être utilisés déjà au courant de l'année académique 2024-2025.
Monsieur l'abbé recteur, vous déplorez chaque fois le vol et la destruction méchante des biens de l'université. Maintenant que vous venez d'acquérir des nouveaux équipements, quelle stratégie avez-vous mise en place pour éviter ce que vous déplorez?
Maintenant, l'idée que nous avons, c'est de construire un centre de recherche où on va placer les différents laboratoires et des mécanismes de contrôle. Par exemple, les appareils, nous allons les sécuriser en installant des câbles de fixation, hein, de sorte qu'on peut utiliser l'ordinateur, mais on ne peut pas l'emporter parce que le câble de fixation ne se coupe pas.
Quelles sont les difficultés auxquelles cette université est confrontée?
Beaucoup de difficultés. Il y a d'abord au niveau des infrastructures. Ce qui est fait pour nous, c'est déjà beaucoup, mais c'est peu par rapport aux besoins. Donc, les infrastructures qui sont faites, c'est en fait pour 3200 étudiants, alors que nous avons le triple de cette capacité-là. L'autre difficulté qu'il y a, c'est le péché capital de l'université congolaise. C'est une université où il y a beaucoup de violence. Violence physique, violence verbale, violence morale. L'autre difficulté, ce sont des antivaleurs, des corruptions, des tricheries, des trafics parfois de points.
Abbé Apollinaire Tshibaka, merci.
Merci beaucoup, Esther Mbalafina.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.